France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Et si l'écolo hyper connecté était le plus grand des pollueurs? Et si celui qui choisit le télétravail pour épargner sa voiture à la planète était en fait celui qui accélère la catastrophe à venir? Et si nos vidéos en streaming sur nos téléphones étaient plus nocifs qu'un diesel? Et si nos soirées sur Netflix annulaient nos efforts pour manger bio en circuit court? N'envoyez pas de mail rageur tout de suite, on va nuancer, ne vous inquiétez pas. Mais cette étude de Green IT cette semaine nous a mis la puce à l'oreille. Notre empreinte carbone, c'est une chose, nous luttons tous pour la réduire, mais notre empreinte numérique, qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça sert de refuser de prendre l'avion si on envoie toujours 150 mails par jour, ou si on en reçoit 150 par jour, si nous avons tous, même sans en changer tous les 4 matins, un téléphone, une télé, un écran plat, une box, une tablette, un ordinateur? On ne parle pas que de l'usage de ces appareils, encore que d'ailleurs on peut s'interroger justement sur le streaming, sur le gaming, donc les jeux en ligne. On ne parle pas non plus de leur renouvellement trop fréquent, et encore que, on pourra aussi parler de l'obsolescence programmée, mais on parle également de la fabrication, de la consommation électrique, de la consommation des centres informatiques, des flux de données, des volumes de données, des data centers, avant de tout nous interdire, comme nous nous interdisons parfois désormais de prendre l'avion ou la voiture, avant que le numérique devienne une ressource critique non renouvelable en moins d'une génération. Il y a peut-être des solutions pour nous, les usagers, les pouvoirs publics aussi peuvent peut-être agir. Pouvons-nous, devons-nous d'urgence parler de sobriété numérique, devenir des flexitariens du numérique? Eh bien, on en parle ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Aurélien, c'est vous le premier, bienvenue Aurélien, et bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Moi, en fait, je voulais vous poser une question, j'avais posé une question à vos intervenants concernant notre usage, l'ensemble des données qu'on stocke de plus en plus sur le cloud. Je pense à la fois nos données personnelles, les photos, les vidéos, mais aussi toutes nos données professionnelles, en fait. Et mon constat, c'est que le volume de données explose, qu'aussi il y a une tendance aussi à l'alourdissement des fichiers vidéos, photos, etc. Une toute petite partie de ces fichiers-là est effectivement utile. Et puis que, en fait, toutes ces données, elles s'accumulent à mesure que le temps passe et elles vont exploser à mesure que l'usage du cloud va se diffuser. Et donc ma question, c'est à la fois quelle est l'empreinte environnementale, énergétique de tout le stockage, puisqu'il faut, je crois que le stockage est assez intensif en énergie. Et puis la deuxième question, c'est vous parliez tout à l'heure de sobriété énergétique du numérique. Est-ce que il y a des manières en fait de faire face à cet enjeu? Est-ce que les industriels ont prévu des choses sur ces questions?
Eh bien, ce sera tout l'enjeu de ce téléphone sonne aussi, Aurélien. Merci beaucoup pour votre question. Pour y répondre, Frédéric Bordage est là. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur de Green IT, celui précisément qui nous a mis la puce à l'oreille. Et puisque notre ami Aurélien nous parlait de sobriété numérique, j'en profite pour citer Sobriété numérique, les clés pour agir, que vous avez écrit c'est chez Buchet-Chastel. Pardon. Et bonjour, Maxime Efouillès.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur, chef de projet chez Shift Project. Est-ce qu'on peut répondre concrètement à la question d'Aurélien, Frédéric Bordage, par exemple? Le cloud, donc le stockage, est-ce que c'est environnementalement préjudiciable ou pas? Faut-il déstocker en gros?
Alors ce qu'on constate dans notre étude, l'empreinte environnementale du numérique mondial, donc qui porte sur le numérique à l'échelle de la planète, hein, 34 milliards d'équipements, ce qu'on constate c'est que 2/3 à 3/4 des impacts sont du côté des équipements des utilisateurs, de nos équipements à nous, nos smartphones, nos télévisions, nos ordinateurs. Et donc finalement, les data centers dans l'ensemble, c'est-à-dire pas que le stockage des données, mais aussi tous les traitements qu'on y réalise, représentent de l'ordre de 17% du bilan énergétique du numérique mondial. Et si on regarde les gaz à effet de serre, c'est 15%. Donc finalement, non. Effectivement, ça croît très vite. On stocke de plus en plus de données, souvent inutilement.
Ouais.
Mais ça reste une part peu prépondérante de notre impact numérique.
Donc on ne déstocke pas, on n'a pas d'urgence à déstocker. En tout cas, on n'aide pas si on déstocke.
Ça fait pas de mal de déstocker. Okay. Hein. Déstockons. Mais il y a des gestes plus prioritaires qu'il faut mettre en avant.
Alors, Maxime Efouillès, est-ce que c'est pareil pour... Parce qu'on entend beaucoup de choses, il y a beaucoup d'idées reçues. On y viendra d'ailleurs sur la manière de calculer notre empreinte numérique. Typiquement, par exemple, quand on nous explique que recevoir 150 mails, c'est extrêmement préjudiciable pour l'environnement. Est-ce que tout ça est réel et vrai ou pas? Au fond, qu'est-ce qui fait le plus mal? Alors, du coup, sur les chiffres, on est vraiment en accord. Moi, je vais faire exprès de prendre un autre point de vue.
Je vous en prie.
En disant que sur la base du même ordre de grandeur, donc un peu plus de 15% de l'impact énergétique mondial qui est dû au centre de données. En fait, les données qu'on va stocker dans les centres de données, c'est des données qu'on va produire, qu'on va envoyer et auxquelles on va faire appel à certains moments. Donc, on va solliciter l'infrastructure numérique qui va être derrière. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que tout ça, c'est des usages. Ce qu'on appelle la donnée, si on veut vraiment comprendre ce que c'est un usage. Mm-hmm. C'est-à-dire que un petit octet de données, en fait, c'est que j'ai cliqué quelque part pour faire quelque chose, mm-hmm. pour regarder mm-hmm. quelque chose, mm-hmm. pour voilà. Et du coup, l'augmentation.
Donc, faut changer nos usages.
Ben la question va, mm-hmm. elle va se cristalliser là-dedans. Ouais. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a vraiment un système mm-hmm. d'usage derrière qui mm-hmm. s'est mis en place, et donc réfléchir à quelles données je stocke, mm-hmm. quelles données sont stockées, en fait, et quelles données sont produites, ça soulève vraiment la question des usages. Donc, effectivement, c'est un geste, on va dire, déstocker la donnée, c'est un geste qui est intéressant, mm-hmm. qui n'est pas suffisant, qui est intéressant. Et en fait, il est surtout intéressant parce qu'il permet de poser la vraie question de bah, comment on a construit le système d'usage mm-hmm. numérique et qu'est-ce qu'on stocke et pourquoi.
Parce que quand je lis, parce que en préparant cette émission, j'ai lu des choses qui m'ont paru plus aberrantes les unes que les autres, ou alors c'est que je ne me rends absolument pas compte, en fait, mais je lis que les emails envoyés par 100 personnes sur une année polluent autant que 13 allers-retours en avion entre Paris et New York. Est-ce que ça a du sens de dire des choses comme ça, par exemple? Est-ce que c'est vraiment quantifiable à ce point-là?
Alors, c'est tout à fait quantifiable. Par contre, envoyer 100 mails qui correspond à 13 allers-retours...
100 par personne en une année. Donc, mais ça fait beaucoup de monde.
Combien de personnes?
Ah bah alors voilà. Combien de personnes? Dans quel pays? Est-ce que c'est de la 4G? Voilà. Est-ce que c'est du Wi-Fi? Enfin, tout ça, j'imagine que ça change beaucoup, non?
Alors, on l'abordera tout à l'heure, je pense, hein, mais l'enjeu, il n'est pas sur les mails, concrètement. Okay. L'enjeu, il est d'abord sur les flux vidéo, il est d'abord sur la durée de vie de nos équipements, il est d'abord sur la diagonale de nos écrans. Et donc, évidemment, il faut supprimer les mails. Faisons-le, ça fait sens. Mais si on se concentre uniquement sur ces sujets-là, alors on passe à côté des sujets qui sont beaucoup plus importants, comme l'allongement de la durée de vie, etc. Donc oui, on sait quantifier les mails, mais ça n'est pas un sujet prépondérant. Hormis la prise de conscience soulignée par Maxime.
Alors, on va retourner au standard dans un instant. Pourquoi une vidéo en streaming, c'est particulièrement préjudiciable ? Maxime Fouillès.
Oui, alors la vidéo, c'est déjà quelque chose, il y a deux facteurs en gros. La vidéo, ça représente 80% du trafic de données mondiales aujourd'hui. D'une part, parce que c'est lourd, une dizaine d'heures de vidéo haute définition, c'est le même volume de données que l'intégralité des articles Wikipédia en anglais
j'ai
en format texte.
J'ai lu ça chez vous, ça m'a...
Donc en format texte,
et alors j'ai lu aussi
images, mais...
que les vidéos pornographiques constituaient 27% de tout le trafic vidéo.
C'est ça.
Et c'est effrayant quand on lit ce chiffre.
Effrayant ou intéressant, suivant le point de vue qu'on prend. C'est intéressant parce que ça montre que on a fait quatre catégories d'usage et qu'en fait, entre le pornographique, Netflix et compagnie qui sont plus films et séries, YouTube et la quatrième catégorie qui regroupe le reste, on est tous entre 20 et 30%. Donc pour revenir sur la question des usages, ça veut dire que si on veut vraiment poser la question de quelles ressources on alloue à quel usage, parce qu'on a une contrainte sur les ressources, on peut pas laisser, enfin comme on est en ressources finies, on peut pas laisser tous les usages évoluer comme ils le souhaitent. Alors si les quatre catégories sont à peu près équivalentes, eh ben il faut réfléchir à est-ce qu'on préfère se laisser développer les flux vidéo associés à la pornographie ou au contenu culturel mainstream, par exemple.
Est-ce que je peux poser une question naïve? Parce que si je télécharge le film que je ne le regarde pas en streaming, est-ce que c'est moins grave?
Question très courante.
Ou pareil, ouais, pardon.
Alors, non, mais qui est complètement normal, en fait, et finalement, qui est le bon réflexe. Ça va dépendre du cas. Et c'est pas une réponse pirouette, c'est-à-dire que comme pour les mails, comme pour à chaque fois qu'on veut quantifier quelque chose, en fait, il y a beaucoup de variables qui rentrent en compte. Donc c'est important de comprendre que ça dépend du cas. Typiquement pour le film, si je le regarde, si c'est mon film préféré que je regarde une centaine de fois dans l'année, moi j'exagère, mais il vaut mieux le télécharger parce qu'à chaque fois que je vais le regarder en ligne, voilà.
D'accord.
Mais si c'est une fois, bon bah faut faire le calcul pour son cas à soi.
Angélique, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, Angélique.
Merci pour vos émissions que j'écoute régulièrement. Alors, cas concret, moi j'ai un ordinateur qui a un petit paquet d'années, mais bon, il fonctionne très bien. Hein. Donc, je ne souhaite pas le changer. Je reçois des messages m'indiquant que je vais devoir passer à Windows 10 et que je dois changer mon ordinateur parce qu'il ne sera pas compatible. Donc, je vais voir des boutiques informatiques qui comprennent mon souhait, notamment pour ne pas rajouter des déchets plastiques inutiles, puisque mon ordinateur me convient très bien pour mon besoin, mais ils n'ont pas de moyens de me permettre de garder mon ordinateur parce que ils n'ont pas la possibilité de changer uniquement certaines pièces. C'est l'ordinateur part au rebut et je dois acheter un ordinateur neuf. Alors, au niveau de l'éco-conception, qu'est-ce qui est possible de faire par exemple, je cite une marque, bon, les Fairphone. Bon, il y a aussi des Samsung Phone, des Nokia Phone, voilà, comme ça j'en ai cité trois.
Donc, quel talent, Angélique.
Voilà, donc les Fairphone ont fait cette démarche-là. Est-il possible au niveau de l'informatique de pouvoir changer uniquement certaines pièces parce qu'il y a de la demande au niveau des usagers et il y a aussi une cohérence qui suit la demande des usagers au niveau des vendeurs et des techniciens mais qui n'ont pour l'instant pas les moyens.
Merci beaucoup pour cette question Angélique. Frédéric Bordage, on est en plein dans notre sujet. Est-ce que ça existe des fers ordinateurs en quelque sorte? Est-ce qu'elle peut tricher? Parce que c'est au fond c'est ça que ça veut dire, hein, puisque de toute façon techniquement on lui demande de changer d'ordi. Est-ce qu'elle peut tricher avec une pièce ou deux, arriver à se refaire une machine un peu plus jeune, on va dire, sans avoir ajouté celle-là, en acheter une autre?
Alors honnêtement, pour un particulier, c'est très compliqué, hein, surtout si la machine commence à être vieillissante. Par contre, on a des progrès qui sont en train d'arriver. Le premier progrès, c'est la loi consommation en 2014, hein, qui avait un 9e volet qui portait sur l'obsolescence programmée. Et grâce au travail d'associations, notamment Alta l'obsolescence programmée et d'autres acteurs, les Amis de la Terre ou autres, on a eu dans la loi, on a eu des obligations d'affichage de la disponibilité des pièces détachées. Donc aujourd'hui, quand on achète un ordinateur, on sait que normalement, il y a un affichage qui dit vous aurez des pièces détachées pendant X années à côté. Et on a un deuxième sujet qui va arriver le 1er janvier 2021 en France et après en Europe, c'est l'indice de réparabilité qui a été voulu par Wynne Poisson dans le cadre de la feuille de route économie circulaire. Et cet indice de réparabilité qui sera une note sur 10, il va nous dire si l'équipement qu'on achète est réparable. Et donc, s'il est réparable, il y a des chances qu'on puisse changer des modules pour allonger sa durée de vie.
On va prendre Philippe dans un instant qui est réparateur de matériel informatique et ça nous intéresse vraiment. Mais juste là-dessus, encore un mot, sur les mises à jour en revanche, hein, est-ce qu'il y a un moyen d'éviter les mises à jour? Parce que on joue tous à ça, hein, fait pas la dernière mise à jour, on fait pas la dernière, puis à un moment, le téléphone ou la tablette veut plus en fait. Donc est-ce qu'on peut, Maxime Ifouès peut-être, ou est-ce qu'on peut changer? Allez-y, finissez Frédéric Bordage, pardon.
Merci.
Est-ce qu'on peut s'éviter les mises à jour?
Alors en fait,
toutes les mises à jour.
Oui et non. C'est-à-dire que si on est informaticien, on va pouvoir faire le tri entre les mises à jour correctives qui vont corriger des failles de sécurité ou des dysfonctionnements, et les mises à jour évolutives qui, elles, ajoutent juste des nouvelles fonctionnalités. Et le drame d'aujourd'hui, clairement, qu'on voit sur les smartphones notamment, c'est qu'on ne change pas notre smartphone parce qu'il ne fonctionne
plus. Absolument, c'est parce que les mises à jour... Parce qu'on ne peut pas faire la dernière mise à jour, on n'a plus accès à la moitié de ce dont
on a besoin. Soit on ne peut pas faire la mise à jour, donc on s'expose à des failles de sécurité, c'est un problème. Soit à force d'empiler des mises à jour évolutives de confort qui servent à rien, qui sont juste des nouvelles fonctionnalités, ça le fait ramer. Et donc nous, on demande, au niveau de la société civile, on a proposé des choses dans le cadre du projet de loi économie circulaire. On demande à ce qu'il y ait une dissociation très claire entre les mises à jour correctives et les mises à jour évolutives, et qu'il y ait un système qu'on demande systématiquement à l'utilisateur de cocher la case « Oui, je veux installer une mise à jour évolutive, c'est-à-dire une nouvelle fonctionnalité qui ne m'intéresse pas, de façon à lui permettre de ne pas le faire, justement, de façon à prolonger, de donner le choix au consommateur d'allonger la durée de vie avec les mises à jour correctives qui corrigent les failles de sécurité. Ou d'installer des mises à jour évolutives s'ils le souhaitent.
Je nous imagine tous cocher une case qui dirait « Voulez-vous installer des mises à jour qui ne vous serviront à rien ?» Non. Philippe, bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y, le réparateur de matériel informatique.
Merci pour la qualité de vos émissions, tout d'abord. Oui, je suis artisan réparateur indépendant. Et si je peux me permettre, par rapport au cas de la dame juste avant moi, elle a une possibilité... c'est de passer sous Linux et d'installer un disque SSD, par exemple, si c'est possible, sur son appareil, mais normalement ça doit l'être, et installer autre chose que du Windows et passer sur des licences free, des licences free, et son ordinateur va continuer à fonctionner tout à fait normalement. Par contre, donc moi je suis spécialisé dans les imprimantes. Je répare aussi des ordinateurs pour un constructeur bien connu, un des trois plus gros. Je répare donc des imprimantes et des ordinateurs, principalement des portables. Donc quand votre ordinateur portable, la dalle est cassée, ça se répare. Ça se répare. Et pour pas cher. Donc voilà, déjà, ça c'est un premier message. Ensuite, il faut arrêter d'acheter des imprimantes jets d'encre dans les supermarchés. Mmh. C'est une arnaque, clairement. Elles sont bourrées d'obsolescence programmée. On trouve pas de pièces détachées parce que justement elles sont tellement peu chères que de toute façon la faire réparer, le coût de la pièce est bien souvent plus cher que le prix de l'imprimante. Donc du coup, les fabricants, enfin les grossistes de pièces détachées ne fournissent pas de pièces parce que de toute façon personne ne leur réclame. Mmh. Donc c'est un cercle vicieux. Donc voilà, vaut mieux acheter une petite imprimante laser noir et blanc qui va vous durer 15, 10, 15, 20 ans et qui sera beaucoup moins onéreuse. C'est un investissement au début, hein, c'est sûr, elles sont un peu plus chères, mais vous allez la garder mais tellement longtemps que vous allez l'adorer, votre imprimante.
Ouais, et on est sûr qu'elle sera toujours compatible avec l'ordinateur qu'on rachètera derrière si on garde l'imprimante pendant 15 ans.
Oui, il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen parce que vous avez des pilotes de compatibles qui fonctionnent très bien, même si on change d'ordinateur, il n'y a pas de problème.
Ok. Pardon, Philippe, je vous ai perdu. On a perdu Philippe, mais c'est pas grave. Je pense qu'on avait. Vous êtes encore là, Philippe, ou pas? Je vous avais perdu. Eh ben, écoutez, je suis désolé parce que je trouvais que je vous avais quitté de manière un petit peu abrupte et limite cavalière. Merci beaucoup vraiment pour votre. Merci pour votre témoignage. Alors, il y a deux choses qui m'intéressent dans ce que nous dit Philippe. Maxime Efouillès, d'abord avec ce qu'il a commencé. Si on se met sur Linux, on n'est pas obligé de s'imposer le Windows 10, par exemple, enfin les Windows à suivre. C'était le problème de notre ami d'avant.
Oui, en fait, Linux, ça appartient à toute une gamme d'outils qui est développée par des communautés qui, en fait, finalement, sont plus proches de, on va dire, la philosophie du numérique au départ, qui est basée sur la mise en commun des connaissances,
ouais, le partage,
sur le partage de l'information et sur la construction de choses qui sont efficaces. Et c'est ça, en fait, le numérique au départ, historiquement. C'est des choses efficaces. On a fait atterrir le module Apollo avec 70 kilooctets, ce qui est le poids d'un mail aujourd'hui. C'est un ordre de grandeur d'ailleurs que j'ai piqué à Green IT, mais qui en fait est hyper parlant parce que le numérique
c'est vraiment
ça l'idée au départ et du coup Linux ça s'inscrit dans tous ces outils là en fait et qui sont réparables, optimisables et juste qui sont modulables quoi, qui sont modulaires plutôt.
Frédéric Bordage, moi je comprends tout ce que nous a dit notre ami réparateur et sur le principe il a raison, mais en effet, est-ce que moi je sais faire ça, moi qui suis devant mon ordi et qui n'y connais pas grand chose au fond, est-ce que je sais faire ça, est-ce que je sais où aller, il n'y en a pas beaucoup, y compris d'ailleurs dans une ville comme Paris, est-ce que je sais où aller pour aller changer des choses dont je sais qu'ils sont peut-être changeables, comment je sais que c'est changeable et comment je suis sûr de la fameuse compatibilité entre ou alors est-ce qu'il faut que j'aille trafiquer, magouiller un peu mon ordi, donc m'y connaître vraiment pour arriver à trouver la compatibilité, par exemple avec cette fameuse imprimante qui me durera 15 ans.
Donc clairement, en tant que particulier utilisateur non informaticien, il ne faut pas essayer de le faire soi-même. C'est long, on risque de tout casser, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut soit faire appel à des réparateurs indépendants, soit nous, ce qu'on pense, c'est si on veut massifier l'allongement de la durée de vie des équipements, puisque le problème, c'est leur fabrication, c'est là qu'on a des impacts environnementaux. Si on veut massifier l'allongement de la durée de vie, alors il faut favoriser le réemploi massivement. Et donc, on a des propositions à faire au pouvoir public, d'ailleurs, dans notre rapport, le dernier, celui qui est sorti lundi, où nous, on pense qu'il faut une consigne obligatoire sur les équipements numériques, de façon à ce qu'on collecte plus de 43%. Aujourd'hui, on a 43% de nos équipements électroniques qui sont collectés. On ne sait pas où le reste va. Mmh. Il faudrait qu'on arrive à 100% parce que ce sont des déchets électroniques hautement toxiques. Et si on collecte ces équipements, alors ils vont pouvoir rentrer dans une filière réemploi où on a des professionnels qui remettent en état de façon massive les équipements pour après les revendre d'occasion. Et c'est là qu'on va massifier le réemploi.
Est-ce que tout est recyclable, au fond, si je laisse mon ancien ordi? Est-ce que tout va retrouver un usage? Qu'est-ce qui ne retrouvera jamais d'usage?
Absolument pas. Malheureusement, quand les auditrices et les auditeurs ont entendu le mot-clé recyclage, cognitivement, la couleur verte est apparue dans leur tête. Or, malheureusement, c'est noir. C'est au sens où on collecte très peu nos déchets électroniques. Et quand on les collecte dans des filières agréées qui les traitent correctement, on recycle très mal les matériaux. La plupart du temps, même quand on récupère certains métaux, ils ne sont plus assez purs pour être utilisés pour l'usage qu'on veut en faire dans l'électronique. Et donc, on doit les utiliser dans d'autres usages. Donc, ce sont des sous-produits. Donc, non, malheureusement, on recycle très mal nos équipements électroniques.
J'ai lu, est-ce que c'est chez l'un d'entre vous, je ne sais pas, que 50% des déchets numériques étaient traités en France et 10% dans le monde. ce qui me paraît être un chiffre, ces fameux 10%, extrêmement mince, en fait.
Le chiffre qu'on a sur les D3E, je laisserai la parole après à Maxime si nécessaire, c'est on a 70... Alors, les D3E, ce sont les déchets d'équipement électrique et électronique, hein, donc nos déchets électroniques. On en a 70% dans le monde qui font l'objet d'un trafic, et c'est tellement grave que c'est Interpol qui gère ce trafic. Donc, vous imaginez les flux financiers et ce que ça représente comme impact pour l'humanité.
Maxime Efouès, vous voulez ajouter quelque chose?
J'ajouterais que en fait, l'image qui est intéressante à avoir en tête, après tout ce que Frédéric vient de dire, hein, c'est concrètement que quand on achète un appareil, il va falloir aller creuser un trou quelque part pour extraire des matériaux. Ce trou, il est beaucoup plus grand que la taille de l'appareil. Pour les quelques grammes de quelques métaux d'un smartphone, il faut creuser un trou qui est 40 fois plus gros que le smartphone. Juste pour quelques-uns, pour une toute petite partie. Et une fois qu'on aura creusé ce trou, effectivement, on va traiter ces métaux, on va les mettre dans le smartphone, et une fois qu'on va en disposer de ce smartphone, et ben en fait, il ne va pas être recyclé. Ces métaux, ils ne seront jamais réutilisables, tels quels. Donc, à chaque fois qu'on change de terminal, il faut avoir en tête qu'il y a un trou qui est creusé quelque part, et donc qu'il y a un trou qui est creusé dans le budget matériau, en fait.
Quand je disais tout à l'heure en introduction qu'on était dans une effectivement ressource non renouvelable dont l'épuisement ira beaucoup plus vite que les ressources fossiles dont on parle beaucoup aujourd'hui, si on ne s'arrête pas, si on est toujours dans cette expansion numérique, ça veut dire concrètement que est-ce qu'on sait à quel moment on ne sera plus en mesure de toute façon de fabriquer smartphones, écrans, tablettes, etc. Est-ce qu'on peut chiffrer ça et dire, j'en sais rien, en 2100 c'est fini? On peut le dire ça, Frédéric Bordage, ou pas?
Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas 2100. La mauvaise nouvelle, c'est que pour des métaux critiques comme le cuivre, l'or, l'argent, etc., les réserves au rythme actuel, c'est une génération.
Donc
c'est pas 2100, on est en 2020.
Donc 2050.
C'est 2050, on n'en a plus. Donc c'est tellement proche de nous qu'on n'arrive pas à le concevoir. Et on est dans une espèce de mythe prométhéen où la tech va sauver le monde. Et on imagine un futur avec des villes intelligentes, tout est smart partout. C'est juste absolument aberrant. Juste, je vous donne une alerte, en fait, hein, qui a été lancée par Elon Musk, le patron de Tesla, qui fabrique des véhicules électriques aux États-Unis, qui était devant le Sénat américain et qui expliquait au Sénat américain, on ne pourra pas à la fois avoir des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, des véhicules électriques et des équipements numériques. Il va falloir choisir, on ne pourra pas tout fabriquer.
Laure, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Pardon de vous avoir fait patienter, Laure, allez-y.
Oh non, mais je vous écoutais, c'était parfait. Alors bon, je me sens un peu bête parce que j'allais dire videz vos corbeilles, et finalement...
Mais videz votre corbeille quand même, hein, tant que vous y êtes, Laure.
Non mais c'est vrai, je pense à une boîte aux lettres pleine de prospectus papier qu'on aurait mis à la poubelle, et en fait je me dis, sur un ordinateur, finalement ça revient pratiquement au même. Donc si une fois par semaine ou une fois par mois on s'obligeait tous à vider nos corbeilles, je me dis que ce serait déjà on aurait déjà un sentiment d'être un tout petit peu moins dégoûtant avec nos ordinateurs, quoi. Enfin, un petit peu moins polluant.
Mais au fond, c'est l'usage dont vous parliez, Maxime, tout à l'heure. Ça revient un peu à la même chose. Laure, pardon, je vous ai interrompu.
Non, mais je vous en prie. Alors, en fait, j'avais une question parce que est-ce qu'on a... Enfin, ça me paraît important de savoir si, depuis l'ère numérique, on a réussi à chiffrer... En somme, la différence entre l'empreinte carbone que chaque individu pouvait consommer du temps de l'ère papier et l'empreinte carbone que l'on utilise maintenant avec nos technologies numériques. Parce que, bon, il y avait effectivement les arbres, on nous a vendu le numérique en disant on va sauver des forêts, etc., etc., ce sera beaucoup moins polluant, ou en tout cas moins dommageable pour la nature. On se rend compte qu'on n'en est pas là. Et en fait, il y avait quand même aussi le papier et les piles de nos cassettes. Enfin, moi, je suis un vieux machin, donc forcément...
Moi aussi, j'ai connu la cassette.
Voilà, les tas de piles, vous savez, qu'on mettait au rebut, etc.
Maxime Efouès est perdu, c'est même pas de quoi on parle.
J'ai vécu la cassette.
C'est un petit cylindre avec des cochonneries dedans. Bon, bref, tout ça pour dire que, est-ce que, à force de nous culpabiliser, est-ce qu'on pourrait quand même nous dire un petit peu la différence qu'il y a chiffrée entre notre empreinte carbone du temps du papier, des piles, des radios cassettes qui étaient aussi faits avec des composants certainement pas bons pour la planète, et puis ce qui se passe maintenant. Alors,
Alors, Maxime Fouillès, merci beaucoup. Laure. Est-ce qu'on était au fond plus polluant parce que les produits étaient pires aujourd'hui qu'on l'est maintenant avec nos produits numériques?
Alors déjà, juste pour répondre à la corbeille, oui, c'est intéressant de vider sa corbeille, mais encore mieux, c'est de se désabonner des spams. Ouais. L'exemple des prospectus est parfait, hein, c'est-à-dire qu'une fois que le prospectus est mis dans la boîte aux lettres, on a déjà imprimé le papier.
Mais pas seulement les newsletters, est-ce qu'on peut interdire aux gens de nous envoyer des newsletters, voilà. Sérieusement,
on peut se désinscrire, en fait, ils sont obligés d'avoir un petit clic, se désinscrire. C'est intéressant parce que ça permet de dire, bah tiens, cet usage, j'en ai pas besoin. Pour revenir du coup sur la vraie question, concrètement, je vais commencer par la conclusion, en fait, pour spoiler. concrètement, aujourd'hui, l'impact du numérique, on va prendre en termes de gaz à émission effet de serre, non, en termes d'énergie, il augmente de 9% par an. La consommation énergétique mondiale augmente d'à peu près 1,5% par an. Donc ça veut dire qu'on fait toujours plus de numérique et qu'au total, quand on fait le bilan, on diminue pas la consommation énergétique mondiale. Donc ce qui est sûr, c'est que le numérique, il permet pas, en faisant beaucoup plus, comme on le fait maintenant, de diminuer par magie la consommation énergétique mondiale, et donc les gaz à émissions à effet de serre. D'où ça vient? Ça vient du fait que tous les outils numériques qu'on a mis en place, on les a mis en place sans penser ce qu'on appelle de façon systémique, c'est-à-dire de façon large. Mm-hmm. On s'est jamais dit, si je mets ça en place, alors ça va influencer tel usage de telle manière, puis celui-là, puis celui-là, et donc je vais utiliser mon truc de départ un peu plus. Concrètement, les mails, ça coûte beaucoup moins d'envoyer un mail que d'envoyer une lettre. Bon, super. Du coup, on envoyait plus de mails. Et au final, en fait, on envoie beaucoup plus de mails. Et pour toutes les innovations technologiques du numérique, notamment en efficacité énergétique, en fait, on utilise tellement plus nos outils numériques que ce qu'on faisait avant, qu'on contrebalance et qu'au total, on consomme plus. Mmh. Un exemple hyper parlant.
C'est ça. Donc, on envoyait une lettre, on envoie 10 mails. Donc, en fait, voilà. On a perdu
en fait, on envoie même 100 ou 200 mails pour une lettre.
Pour une lettre. Donc, du coup, on a perdu l'avantage.
C'est ça. Et un truc hyper parlant pour comprendre ce que c'est, cet effet rebond, c'est l'histoire des téléphones portables. Mmh. Il y a des progrès technologiques qui ont été faits, mais absolument formidables, sur la capacité des batteries. En 10, 20 ans. Mais vraiment formidables. Pourtant, on recharge tous nos téléphones tous les jours depuis 10 ans, 20 ans. Donc, c'est juste que puisqu'on a des plus grosses batteries, on va mettre plus de fonctionnalités sur le téléphone, on va l'utiliser plus, on va utiliser plus le réseau. Maintenant, il y a le 4G dans le métro, super.
Et bientôt 5, d'ailleurs. Hein.
Et bientôt 5. Enfin, du coup, en fait, c'est ça l'effet rebond. Et c'est pour ça que le numérique tel quel, c'est pas un outil magique, c'est un outil. Donc, si on l'utilise mal, les conséquences sont pas bonnes. Enfin, voilà, c'est juste la vie, quoi.
On a tous un petit côté cynique, et y compris les gens qui fabriquent ces choses-là. Est-ce qu'on est déjà en train d'imaginer et de chercher, Frédéric Bordage, ce qu'on fera quand on n'aura plus de métaux rares? En effet, que ce sera extrêmement compliqué, parce que, pour expliquer aux gens, en plus, les métaux rares sont extraits pour la plupart du temps en Chine, ou alors en Afrique, dans des carrières qui sont d'ailleurs aussi détenues par les Chinois. Tout ça se fait dans des conditions environnementales épouvantables, dans des conditions sociales absolument exécrable et scandaleuse, mais on veut pas le voir parce qu'on a un beau smartphone à la main. Est-ce qu'on réfléchit déjà à comment on ferait la même chose sans ça, en fait? Ça existe, cette recherche-là, déjà, ou pas du tout?
Oui, tout à fait. Donc, nous, on partage l'expression sobriété numérique avec un certain nombre d'acteurs, dont le Shift. Hein. Et pour nous, derrière l'idée de la sobriété numérique, il y a une démarche pour justement anticiper cette problématique et ne pas en arriver là, parce que un monde sans numérique, c'est un monde à la Mad Max, d'une certaine façon, parce que c'est un monde désorganisé, chaotique. On a besoin aujourd'hui, au quotidien, du numérique. Et si on perd le numérique très rapidement, en moins d'une génération, on désorganise la société. C'est littéralement Mad Max. Donc, comme on n'a pas envie de cet avenir-là, on a une démarche qui vise à associer la low-tech avec la high-tech. Et c'est ce qu'on appelle la sobriété numérique.
Pardon, allez-y, finissez, pardon.
Et donc l'idée, je vais vous décrire un projet très très simple. Hein. C'est un projet de prévision pluviométrique pour des agriculteurs en Côte d'Ivoire. Et donc, initialement, avant qu'on éco-conçoive le projet, il fallait, si vous aviez 50 agriculteurs, il fallait 50 smartphones pour diffuser les prévisions pluviométriques qui étaient calculées en France. On l'a éco-conçu de façon radicale, on a remplacé les smartphones, devinez par quoi?
Je sais pas.
Le tableau noir de l'école du village. Et donc, on dessine une fois par jour les prévisions pluviométriques à la craie sur le tableau noir du village, parce que ça fait tout à fait le job. On n'a surtout pas besoin de plus. Et on a supprimé 49 smartphones sur 50. Mm-hmm. Et donc, on pense que l'avenir, si on veut que nos enfants aient un avenir.
Essayez de faire ça en zone urbaine, etc., qu'on rigole. Non? Vous ne croyez pas? Ce sera beaucoup plus difficile, Maxime Fouet.
J'ai peut-être un exemple là-dessus.
Allez-y.
Alors, qui est encore à l'étude par les par les low-tech labs, notamment de Paris, si je ne me trompe pas, qui en fait sont en train de réfléchir aux tiny house, ces espèces de petites maisons qui sont censées être le plus autonomes possible. Et l'idée de ce projet, c'est de dire, OK, à quel point les capteurs, donc l'Internet des objets, là, quelque part, on peut équiper notre maison autonome de capteurs pour la rendre autonome. Donc on est pile poil dans le bon vieux paradigme de la Smart City. Sauf que bah, c'est un low-tech lab. Donc ils se sont dit comment on fait pour le faire intelligemment, sobrement.
Bah, on appuie sur un interrupteur pour allumer la lumière, par exemple.
Oui, sérieusement. Et du coup, l'idée qu'ils ont eue, en plus du coup, de mettre seulement les capteurs utiles, donc par exemple l'interrupteur sur la lumière, enfin mettre un capteur automatique pour l'allumage de la lumière, c'est pas utile. En plus de réfléchir à l'utilité des capteurs, ils se sont dit, mais par exemple, pour le réglage du thermostat, etc., et le monitoring de la consommation énergétique de la petite maison, là, eh ben, on en prend une témoin, un peu, par zone climatique, donc je ne sais pas, par exemple, vers Bordeaux, hop, on en met une, qu'on équipe de capteurs, et elle sert de, bah, comme une station météo. Et donc, on sait que dans cette zone-là, il fait à peu près tant de température, il faudrait à peu près avoir tel thermostat à tel niveau. Et ça nous permet d'équiper une seule maison et d'avoir le même résultat.
Je veux qu'on retourne au standard. Retrouver Daniel. Bonsoir, Daniel.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Oui, merci. Et merci pour votre émission que je suis régulièrement. Voilà, je voudrais revenir deux minutes sur la télévision la télévision vue en direct. J'ai bien compris que...
Donc le vieux truc, là, vous voyez ?
Allô ?
Le vieux truc, là, vous voulez parler du vieux truc, c'est ça ?
Voilà, le vieux truc.
J'ai entendu parler.
Excusez-moi, je ne vous entends pas très bien.
Ah bon ? Mais allez-y.
Voilà, j'ai bien compris que regarder la télévision en streaming, en VOD, la télé de rattrapage, tout ça, n'était pas très bon pour la planète, mais je m'interroge par rapport au visionnage de la télévision, donc, en direct. Dans l'endroit où j'habite, lorsque la télévision... Hertzienne a disparu, on nous a proposé la TNT. Là où j'habite précisément, on ne pouvait pas recevoir la TNT, donc à l'époque, on nous a aiguillé sur la télévision par satellite. Donc depuis 10-12 ans, je ne sais plus. Et aujourd'hui, la télévision par satellite marche très bien, mais bon, j'imagine que pour la planète, envoyer des satellites là-haut pour diffuser de la télévision, c'est peut-être pas très propre. Et aujourd'hui, ben, mon fournisseur d'accès me harcèle un petit peu, me tarabuste pour que je passe à la télévision par ADSL. D'ailleurs, on est en train d'installer la fibre dans mon village. Alors, je m'interrogeais, qu'est-ce qui est bon pour la planète ? Est-ce que je dois plutôt garder la télévision par satellite ou est-ce que je dois opter pour la télévision par l'ADSL ? Et je précise bien, donc, pour le visionnage en direct. Je ne parle pas des autres usages de la télévision.
Merci beaucoup, Daniel. Frédéric Bordage, qu'est-ce qu'on peut répondre à notre ami Daniel ?
Ce qu'on peut répondre, c'est que si on sort du cas particulier de Daniel qui est coincé et qui doit soit avoir recours...
Il y en a beaucoup, des comme ça,
Soit recours à la DSL, soit au satellite. Ouais. Pour tous les gens qui reçoivent la TNT, elle est broadcastée de toute façon, donc 100% de ses impacts ont lieu. Et donc, utiliser pour les flux directs, hein, comme le précise bien Daniel, utiliser autre chose que la TNT, c'est rajouter 100% d'impact numérique évitable.
Mais quand on ne peut pas avoir accès à la TNT comme lui, alors comment on fait ?
Quand on ne peut pas avoir accès à la TNT, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui coûte le plus dans la télévision, c'est la fabrication de la télévision et son alimentation en électricité. Donc, ce qu'il faut, c'est ne pas changer sa télévision. Donc, si pour passer à la DSL, on doit changer sa télévision, alors il faut rester sur le satellite. Si par contre, on peut passer à la DSL, alors honnêtement, je ne sais pas répondre parce que je pense qu'il y a très peu d'experts dans le monde qui ont fait des comparatifs entre diffuser un flux vidéo via satellite ou via ADSL.
Et alors, question naïve de Fabienne S. de Paris, est-ce que ça compte, est-ce que ça a un sens d'éteindre mon ordi à chaque fois que je quitte mon bureau, par exemple, d'éteindre la télé, mais vraiment, c'est-à-dire pas laisser en veille, mais d'éteindre vêtements. Est-ce que c'est un geste qui compte, ça, ou est-ce que c'est une goutte d'eau dans l'océan ? Allez-y,
Eric. L'enjeu, en fait, c'est si les équipements sont mis en veille, c'est déjà pas mal. Évidemment, les éteindre physiquement complètement, c'est mieux. L'enjeu aujourd'hui sur la consommation électrique du numérique à la maison, c'est d'éteindre les box ADSL et les boîtiers TV qui restent allumés.
Que nous faisons jamais.
Non, on a le réflexe de couper le robinet, d'éteindre la lumière quand on quitte notre domicile ou quand on dort, mais pas d'éteindre la box. Et c'est ça qu'il faut éteindre en priorité. Évidemment, tout le reste aussi.
On a encore le temps pour quelques questions. Étienne, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à vos invités.
Allez-y, Étienne.
Alors, ma question est par rapport aux offres d'Internet illimité des fournisseurs d'accès. Donc, je voulais savoir si un jour, il y aura une loi qui obligera les fournisseurs d'accès à justement proposer des abonnements limités, c'est-à-dire avec un certain nombre de gigaoctets à utiliser pour justement faire baisser les usages.
Mmh. Merci beaucoup Étienne pour votre question. Alors, est-ce que ça veut dire au fond qu'il faut être coercitif? Parce que en réalité, c'est aussi ça que ça veut dire. Donc, limitons l'accès aux gens, puisque de toute façon, un peu comme on se dit aujourd'hui, vous n'aurez plus le droit qu'à un billet d'avion par mois ou par an, par exemple, à venir. Est-ce qu'on peut limiter l'accès, en fait? Y aller en limitant l'accès, à votre avis, Maxime Efouillas, est-ce que vous seriez prêt à ce qu'on limite votre accès?
Ce qui est sûr, c'est que les usages, ils se développent par rapport à ce qu'ils peuvent. On agrandit le tuyau, on remplit le tuyau. On met la 4G dans le métro, je regarde Netflix dans le métro. Enfin, c'est comme ça que ça se développe, quoi. C'est vraiment système technique et système d'usage. C'est deux choses qui se développent main dans la main et voilà, qui grandissent. La question de est-ce qu'il faut être coercitif ou pas, alors je ne sais pas s'il y aura une loi, parce que je ne vois pas encore dans le futur. Ce qui est sûr, c'est que ça fait partie des outils qui sont, pour le coup, radicaux et efficaces, qu'il faut étudier. Et ce qui est sûr, en fait, c'est qu'il faut se placer dans cette position en disant on a des contraintes qui sont non négociables. Hein. On ne fait pas un référendum pour dire oh, bon, les ressources, finalement, on en a plus. Non, bon, c'est comme ça, c'est la nature. Donc, il ne faut pas se demander est-ce qu'on adapte nos usages et notre système numérique pour qu'ils soient compatibles avec les contraintes, mais comment? C'est comment? Il n'y a pas de est-ce que.
Frédéric Bordage, en effet. Et finalement, on est dans la même problématique. C'est marrant parce que le numérique, on a l'impression que ça sent rien, que ça, parce qu'on ne voit pas l'extraction, parce que quand on le jette, on ne le voit pas déborder dans les poubelles. Donc on a l'impression que ce n'est pas comme du diesel, etc. Mais on va interdire le diesel, par exemple. Donc est-ce qu'il faut aussi, pour ce qui est des données numériques, avoir ce genre d'attitude quand on est une autorité?
Alors, je pense qu'on y viendra naturellement parce qu'il y a un moment, puisqu'on est déjà à l'heure du choix, quand les pouvoirs publics, la société prendra conscience de l'imminence de la fin des stocks, qu'il n'y a plus de stocks de minerais pour fabriquer le numérique et de la criticité de cette ressource, on y viendra. Par contre, le sujet, moi, j'aimerais répondre autrement en 5 secondes, c'est celui de la conception responsable des services numériques et de l'éco-conception. Aujourd'hui, on sait, avec la même quantité de données, de bandes passantes, donc avec un forfait limité, on sait, par exemple, en Allemagne, vous fournir 700 fois plus d'informations pour la même quantité d'informatique qui circule. En gros, c'est la Deutsche Bahn qui a deux sites web. Il y en a un qui pèse 700 fois moins lourd. Et donc, avant d'interdire des forfaits illimités, je pense qu'il va y avoir un enjeu où là, c'est plutôt de l'innovation pour les fournisseurs de services numériques, à qui fournira le service numérique le plus rapide, le plus efficace, et donc se distinguera vis-à-vis des autres utilisateurs.
Une autre question, une dernière question, toute dernière pour conclure, c'est celle de Florence que je trouve mignonne, qui dit « J'écoute l'émission sur mon smartphone, car je n'ai pas de poste de radio à la maison, serait-il plus propre d'acheter une radio ?» On parlait du streaming tout à l'heure, est-ce que pour le son, ça marche de la même manière? Vous avez 8 secondes, Maxime Efouillas, faut-il qu'elle achète un transistor?
Un vieux transistor qui serait réparé, ce serait probablement mieux.
Allez, bon, on va vous en envoyer un, Florence, on vous l'offrira. Allez, merci beaucoup, merci à tous.